Merci. Merci pour la présentation. On puisse me repérer tout de suite. Oui, mais c'est avec joie, c'est vrai que chaque fois je viens à l'école biblique, c'est vrai, pour apporter des cours, gloire à Dieu, mais pour aussi pouvoir prêcher dans la région et pour pouvoir me trouver ici pour des réunions spéciales comme chaque année pour Amour, Vérité, Vérité, Amour. Que le Seigneur, c'est vrai, continue à diriger toutes ces rencontres. Que le Seigneur te bénisse, Jérémy, dans ce que tu apporteras. Merci, Tim. Il y a quelque temps qu'on ne s'était pas vu, Tim. Oui, c'est vrai. Alors, puisque tu parlais de l'accent du Sud-Ouest, c'est vrai que Tim ne l'a pas pris, mais il a habité pendant dizaines d'années à Toulouse. Et donc, voilà, il est préservé de cet accent.
J'en ai un autre.
Tu en as un autre. Voilà. Très bien. Oui, très bien. Oui, je crois que ce thème qui a été choisi cette année sur la famille, sur l'homme, la femme, sur les enfants, sur l'éducation, il est plus que jamais d'actualité. Et je crois qu'il fallait qu'on s'arrête quand même quelques heures sur ce sujet pour le voir en détail, mais bien sûr, comme tu l'as dit, Jérémy, par rapport uniquement à la parole de Dieu. N'oublions pas que peu importe si les fondements établis par Dieu sont renversés, mais ils ne sont pas détruits. La parole de Dieu, Matthieu au chapitre 25, elle vit aujourd'hui, demain et éternellement. Et peu importe si on renverse, la parole de Dieu est toujours là. Et je voudrais, c'est vrai, sur ce sujet d'un format biblique d'une famille, alors je ne sais pas si on va voir tout en détail, mais allons-y, commençons au moins à voir quelques versets de base pour que l'on comprenne que peut-être que ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose que Dieu l'avait prophétisé à l'avance et que nous, d'un côté, ne soyons pas effrayés, mais ne doutons pas de la parole de Dieu. Mais de notre côté, je crois que c'est important pour nous, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, alors n'oublions pas que le Seigneur a dit que nous étions la lumière du monde avec le Seigneur. Alors dans ce monde qui devient de plus en plus obscur, je crois qu'il est temps. Il est temps de projeter cette lumière dans ce monde, n'allons pas plus loin, dans cette France qui de plus en plus est à la dérive. Et je crois que plus que jamais, on n'est pas là pour critiquer, juger notre président, nos ministres, des partis. Mais nous sommes là, comme dit la parole de Dieu, pour prier pour eux, pour prier pour les autorités, pour prier pour les gouverneurs. Et je crois qu'une des choses, peut-être, de ce qui se passe depuis des années en France, c'est à cause de notre lenteur et de notre tiédeur de prier pour les gouverneurs. Je le reconnais pour moi-même. Je ne suis pas fidèle, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas fidèle dans les intercessions pour le peuple de France, pour mon président, pour mes ministres, pour mes députés. Non. Et pourtant, c'est biblique. Dieu le veut. Et déjà, je crois que nous avons un élément là. Si nous avons cette situation en France, en Europe et dans le monde, je crois que c'est à cause aussi de nous. Où nous n'intervenons pas assez déjà dans la prière et peut-être dans des prises de position nettes, franches. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Alors, je vous demande de prendre trois versets de base pour que l'on comprenne un peu que ce format établi par Dieu, biblique, de la famille, disparaît ou souffre en ce moment. Et le premier, et je crois que la plupart des versets que nous verrons ce matin, c'est pas des nouveautés, hein, pas du tout, hein, vous ne les connaissez, mais allez dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, et voilà ce que je lis ici au départ. Et puis, préparez-vous à aller dans le Nouveau Testament pour, il me semble, deux autres versets qui nous feront comprendre cette situation, j'exagère pas, mais catastrophique que l'on vit en ce moment au niveau de l'homme, de la femme, du mariage et de la famille. La Bible dit ici dans Genèse, au chapitre 2, j'en viendrai d'abord au chapitre 1, excusez-moi, et au verset 27, il est dit, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et c'est bien distinct aussi dans le texte original. Homme, femme. Je sais que les deux mots que je vais prononcer, bien, ça sonne mal peut-être pour notre langage français. Je comprends pourquoi la traduction est homme, femme. Mais dans l'original, il est dit l'homme créa le mâle et la femelle. En train de bien dire deux choses distinctes que nous ne pouvons pas donc mélanger. Et déjà, c'est très important pour nous ici. Alors, voilà que le monde avance, le monde évolue. Et c'est vrai que Dieu, pour faire évoluer ce monde, pour le peupler partout, alors voilà, il donne à Dieu cette possibilité à l'homme et à la femme de pouvoir se multiplier, se reproduire. Alors là, oui, on peut commencer à parler de famille. Et alors, c'est pour cela que, juste ici, un peu plus loin, un autre verset bien connu, n'est-ce pas? Il est dit au verset 28, « Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et puis, dominez sur les poissons, dominez de la mer, et puis sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ça y est. Maintenant, nous voyons que l'homme et la femme peuvent être unis. Ils peuvent devenir une même chair, Dieu le veut. Il ne veut pas que maintenant l'homme sépare ce que Dieu a uni. Et je crois, Jérémy, que tu parleras de cela dans le thème de cet après-midi. Ça y est, alors maintenant dans cette union, Dieu a donné cette possibilité. Quel privilège en même temps à l'homme et à la femme de pouvoir féconder, se multiplier et remplir la terre. Catastrophe. Quand on continue dans les passages, voilà que Dieu se met en colère. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7. Il s'aperçoit que la méchanceté grandit de plus en plus sur terre. Alors il a dit, je vais arrêter tout ça. Et voilà que maintenant il demande à cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, ce prédicateur de justice, comme il est dit, à Noé. Il lui demande de préparer une arche. Parce qu'il va anéantir de nouveau la terre. Un grand bouleversement qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Bien, on ne se retrouve qu'à 8 êtres humains tout d'un coup. Il y avait sans doute des millions qui déjà étaient là. Le monde s'était peuplé partout. Non, il n'y en a plus que 8. Alors que si on regardait Genèse au chapitre 9 et au verset 1, il y a de nouveau la même répétition de la part de Dieu. Quand il dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. On arrive à Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11, et c'est là où on voit la création de tous les peuples, de toutes les langues. Ça y est, la Bible dit qu'il y a eu le point de base de Dieu, les 70 familles qui vont maintenant peupler le monde entier. Alors, mes chers amis, je suis un descendant d'Adam et Ève, mais je suis un descendant de Noé et de toute sa famille. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Tout recommencer presque à zéro. Bien, on continue. Ah là là, ça ne va pas s'améliorer. Pas du tout. Et alors, c'est là où, ça y est, nous sommes aujourd'hui dans le 20e, 21e siècle. Et c'est prophétique ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va voir deux versets que nous connaissons. La Bible nous montre donc qu'à la fin des temps, ça va être comme du temps de Noé, où on avait de plus en plus, on s'était éloigné de Dieu, il y avait cette insensibilité totale du message divin, et de l'autre côté, vous avez alors tout à fait l'autre extrême en ce moment, où on vous dit, non, ne vous mariez pas. Non, 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 oula, si vraiment vous voulez être quelqu'un et de plus en plus dans une sanctification, dans une perfection parfaite, pas de mariage. Alors voilà les deux extrêmes. Alors je voudrais qu'on lise ces versets parce que, non, je ne suis pas là pour raconter, n'est-ce pas, n'importe quoi. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu et je voudrais qu'on aille, comme je vous disais tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 24, Merci beaucoup de chercher avec moi ces passages, Matthieu chapitre 24. Et voilà, lors de tout l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a donné au peuple, a donné aux 12 apôtres, a donné à tous ces pharisiens sadducéens, voilà donc, entre autres, l'enseignement qu'il leur donne. Je suis dans Matthieu 24, il est dit au verset 38, « Car, et peut-être je peux commencer au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Quoi, alors ? Ben, « Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, puis mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, de deux hommes et un continu, ainsi de suite. Et j'ai l'impression que de plus en plus, nous sommes dans cette situation. Pourquoi je le dis ? Parce que si vous l'avez remarqué, c'est que de plus en plus, c'est la fête partout. Tout ! Il faut des anniversaires partout. Il faut la fête partout. Des repas partout. Je ne sais plus à combien d'anniversaires nous en sommes. Pardonnez-moi de parler de Carrefour. Je me sers à Carrefour. Je crois que je vais continuer à me servir à Carrefour. Mais alors, toutes les semaines, c'est l'anniversaire de quelque chose. Alors là, vous pouvez y aller. C'est toujours la fête, des guirlandes partout, de la musique partout. Et puis, bien sûr, on vous donne tout, mais il faut quand même passer à la caisse. Ça, il est vrai. Mais on vous donne tout, c'est vrai. Et alors, dans tous les domaines, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la fête. Et puis, dans nos familles, ça a été imprégné de cela. C'est la fête de ceci, de cela, d'anniversaire, du petit cousin. Et puis maintenant, il y a des voisins, comme tu disais, Tim. Et puis, il faut les accueillir. Et puis, c'est l'anniversaire de la petite, etc. Et sans arrêt, sans arrêt. Et alors, ce qu'il y a de plus malheureux, c'est ça. C'est qu'au sein de nos familles, mariage, divorce, on se remarie. On ne sait plus quel nom donner à tel ou tel enfant. Je voudrais qu'on voit un autre verset, alors celui-là qui est, comme on dit, très carré, hein, très formaté. Oh là là. Alors regardez ce que dit 1 Timothée chapitre 4. Et vous allez me dire si ça ne vous rappelle pas non plus un peu le comportement de ce monde actuel. Et c'est pour cela qu'il faut revenir à ce format voulu de Dieu pour l'homme, la femme, pour une famille. Il est dit ici dans 1 Timothée chapitre 4, je commence au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on y revient, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et ils s'attacheront donc à des esprits séducteurs. » Qu'est-ce qu'ils disent ces esprits séducteurs ? C'est des démons, hein, des doctrines de démons. « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris dans les aliments avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Je m'arrête juste sur, évidemment, cette partie du verset qui nous concerne ce matin. Il est dit, entre autres, dans ces douvettes doctrines, ces doctrines donc de maintenant, puisque nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours, il est dit, il y en a qui vont prescrire de ne pas se marier. Comme si, voilà, je ne prends pas tel aliment, je ne fais pas ceci, oula, surtout pas. Comme s'il y avait une sanctification spéciale quand on ne se marie pas, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'enseigne Dieu. Oui, je crois que ces trois versets de base nous montrent déjà pourquoi nous sommes en train d'assister de plus en plus à cette démolition, dissolution de la famille voulue par Dieu. Je vous rappelle peut-être trois ou quatre faits d'actualité qui vont, j'ai l'impression, appuyer ce retour. Il faut que d'urgence on retourne à ce format voulu par Dieu. J'ai appris par la radio. Et puis ça a été confirmé puisque, bon, je lis le journal, je lis Le Monde. Et il paraît qu'il y a 1 500 000 enfants qui souffrent en ce moment, en France uniquement, hein, qui souffrent. Mais qui est papa? Qui est maman? Où c'est que je me positionne? Où c'est que je suis? Où c'est que je vais? 1 500 000 enfants. Et j'ai appris donc toujours par les médias que ça concerne donc à peu près 750 000 foyers en France. Et ça ne va pas du tout s'améliorer. Est-ce que vous vous rendez compte? Où est le format voulu de Dieu? C'est en ce qui concerne la femme. Homme, femme, mariage, enfant, petits-enfants. Amen, tu en parlais tout à l'heure. Oh là là. Je vous donne encore quelques faits d'actualité pour que l'on comprenne qu'on est en plein, hein, dans cette mise à l'écart de ce que Dieu veut. Est-ce que vous vous rappelez de toutes ces manifestations l'année dernière pour le mariage pour tous? Où c'est que nous en sommes? Qu'est-ce que c'est qui a été voté? Je ne sais plus, on ne sait plus. La confusion générale. Je continue. Je suppose que vous suivez l'actualité comme moi, mais qu'est-ce que c'est que tous ces jeunes qui ont décidé du côté de Nantes? J'ai rien contre cette ville, pardonnez-moi pour ceux qui sont de Nantes. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de se mettre tous en jupe et de se promener? Mais qu'est-ce que c'est? Je pense à autre chose. Excusez-moi, vous suivez l'actualité comme moi. Il y a chaque année l'Eurovision. Mais qu'est-ce que c'est ce personnage qui nous arrive? Et j'ai rien contre les Autrichiens, là non plus, hein, pardon. Mais qu'est-ce que c'est cette Conchita Wurst qui est là? Mais qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est elle qui a remporté l'Eurovision. Lui qui a remporté l'Eurovision, je ne sais plus comment le dire. Mais c'est terrible. Quand on voit donc la mentalité de plus en plus de l'Européen, sans parler de tous les autres continents. Est-ce que vous vous rendez compte au point où on en est? Et Dieu parle de la forme, du format qu'il veut d'une famille. C'est terrible. Oui, que c'est beau quand on revient au format voulu de Dieu. J'ai noté ici, bien sûr, point de départ, l'homme, et c'est un homme, pardonnez-moi d'insister, un mâle, tel que Dieu le dit dans la Bible. Une femme, femelle, pardonnez-moi pour vous, mes sœurs. Mais c'est le terme que Dieu utilise. Et puis, 10 enfants. Et puis, le mariage, pardon. Et puis, oui, ça y est, cette reproduction fécondité, elle est là. Et là, à partir de cela, oui, si on a suivi cet ordre de Dieu, un homme, une femme, un mariage, alors là, on peut parler d'une famille avec les enfants. Là, oui, je suis dans la norme voulue de Dieu. Et puis, petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire, je sais que certains le savent, mais cette fois-ci, en préparant cette étude, je me suis penché sur uniquement dans la Bible le terme « petits-enfants ». Il y en a, hein? Oh là là! Alors, j'ai lu, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9, verset 10, l'importance que Dieu porte aux petits-enfants. Alors, je me sens concerné cette année un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce que je dis merci Seigneur, ma fille aînée, donc mariée, ça y est, un petit garçon. Amen. Jonas, il a 1 an, 4 mois. Alors, je sais, Tim, que toi, je ne sais plus à combien tu as né, Elisabeth, de petits-enfants. Mais pour moi, le premier, alors, oh là là, Seigneur, que c'est beau d'avoir ce petit enfant dans ses bras. À 1 an et 4 mois, un petit enfant, n'est-ce pas? Il est là. Oui, la responsabilité, comme tu disais, Tim, autant pour le père, la mère, mais pour le grand-père et la grand-mère, d'élever aussi l'enfant dans les voies du Seigneur, de savoir lui apporter comme un véritable papy, une véritable mamie, ce qu'il faut de la part du Seigneur. Et alors, je découvre, depuis 1 an et quelques, je découvre... Amen. Ce que doit être le comportement d'un papy. Oh là là, que c'est beau. Mais priez pour moi, hein, parce que je suis jeune. Hein. Jeune comme papy, vous l'avez compris. Je n'ai qu'un an, hein, et demi. Mais c'est beau. Et c'est ça. Et vraiment que Dieu permette que Rachel et que Élisabeth puisse se marier dans les voies du Seigneur et puisse aussi nous apporter des petits-enfants. Oh là là, c'est biblique. Oui, l'homme, d'abord, lui, Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Dieu va lui donner une femme. Alors j'ai noté ici que c'est vrai, Dieu veut que le chef de la femme soit l'homme. 1 Corinthiens 11, 3. Oui, mais le chef de l'homme et le chef de la femme, attention, hein, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et plus je serai en accord avec le Seigneur, plus mon épouse Evelyne dira Amen, n'est-ce pas ? Amen, parce que j'aurai un comportement en train de mettre en application les lois, les conseils, les préceptes, les commandements de Dieu. Et c'est là où une famille ne peut que s'épanouir, même après des dizaines et des dizaines d'années de mariage. Amen, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et puis, de quelle manière, après, l'homme doit s'occuper de la femme ? De quelle manière il doit vivre avec fidélité, avec sainteté ? J'ai noté ici, de quelle manière il faut la porter. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je reste encore sur l'homme, pardonnez-moi, hein, vous allez voir, c'est pas trop long quand même, hein. Mais je reste sur l'homme. C'est extraordinaire de quelle manière, après, Dieu va créer la femme. Oh, que c'est beau! Et c'est là où on comprend ce passage de ta femme est chair de ta chair et que les deux sont un. C'est là où on voit de quelle manière Dieu veut que l'homme se sépare et qu'elle vienne à la rencontre de la femme et que les deux deviennent une chair. Pourquoi ? Parce que déjà au départ, vous, mes sœurs, la formation est venue de l'homme. Quand on regarde ce passage dans Genèse, ne le cherchez pas parce que vous le connaissez, dans Genèse chapitre 2, verset 23, de quelle manière Dieu, pour la première fois, souvent on a dit, voilà la première intervention chirurgicale du monde. Dans Genèse chapitre 2, 23, il anesthésie l'homme. Ça y est, il dort. Et là, quand il voit qu'il dort pour qu'il n'y ait aucune souffrance, comme aujourd'hui, toutes les anesthésies. Alors la Bible dit qu'il va tirer, Dieu va tirer une côte de l'homme et il va créer donc la femme. Ça y est, la femme est là. Et c'est là, c'est extraordinaire parce que dans cette première intervention chirurgicale, il y a la première anesthésie, mais je vais vous dire aussi, la première mondiale, et il ne va pas y en avoir d'autres, hein, comme cela. Non, non. Parce qu'après, c'est reproduction, multiplication. Aujourd'hui, vous le savez, oh là là, on est étonné des interventions chirurgicales qu'on peut faire. J'ai été complètement abasourdi quand j'ai appris que pendant 20 heures, on avait opéré quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ? Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans le domaine médical. 20 heures pour une intervention. Et puis, bon, amen, ça va. Oh là là, je pense à une de mes filles, pardon, puisqu'on est dans famille, et on traite de la famille, mais parlons de la famille. Hein. Alors là, je vais vous parler de Rachel et de mon gendre Romain, qui est, gloire à Dieu, ce petit fils. Je vais vous parler d'Elisabeth maintenant. Alors Elisabeth, donc assistante dentaire, et alors des fois elle me raconte un peu, parce que ça y est, elle peut aller dans les blocs opératoires avec les chirurgiens dentistes, et elle me racontait comment l'autre jour, il y a eu cette intervention chirurgicale dentaire où pour une personne, donc, elle avait une partie de la gencive détruite. Et alors, si j'ai bien compris, voilà, heureusement qu'Elisabeth n'est pas là, vous lui demanderez hein, quand vous la verrez. Mais elle m'a dit que pour reconstituer une partie de la gencive, ils sont allés au fond de la gencive pour couper un bout d'os de partie de la gencive pour la placer à l'endroit où elle manquait et puis que tout va se ressouder, tout va se reformer. Mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est beau, n'est-ce pas ? J'ai pensé parce que je me disais cette première opération chirurgicale dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas ? Que c'est beau. Oui, mais voilà, maintenant c'est fini. Maintenant il y a cette reproduction qui est là et on avance. Oui, l'homme, la femme, La femme, que c'est beau, c'est vrai, d'avoir cette femme qui est donnée par Dieu, qui est accordée par Dieu auprès de Norme. Oui, voilà, Ève. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 20, que c'est Dieu, c'est Adam qui a donné le nom à sa femme, Ève. Et alors il lui dit, parce que tu es la mère de tous les vivants. Si on est là, ben c'est grâce déjà à ce début, ce commencement qu'il y a eu. C'est extraordinaire. Ne bougeons pas, restons, n'est-ce pas, dans ce format voulu de Dieu. Et de voir de quelle manière Dieu veut que cette femme devienne importante dans le foyer, pour enseigner, pour mettre la douceur, n'est-ce pas, que nous les hommes, on ne sait pas mettre. Oh, je l'ai vu au travers des années, de quelle manière il y avait cette douceur de la part d'Évelyne. Et je comprends ce passage dans Proverbe chapitre 1 que Dieu a révélé à Salomon. Proverbe chapitre 1, où il est dit que l'homme sera là pour apporter donc l'enseignement, mais que c'est la femme après qui enseignera. Au pouvoir rentrer dans des détails que peut-être nous, hommes, nous n'arrivons pas. Homme, femme, d'accord. Vous le comprenez qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Nous restons toujours dans le format voulu de Dieu. Alors maintenant, oui, il peut y avoir un mariage avec un homme et une femme. Pardonnez-moi, je ne vous connais pas à tous, mais je crois que la plupart vous êtes d'accord pour qu'on puisse prononcer le mot mariage s'il y a un homme et une femme.
Amen.
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 Amen. Amen. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Oui, on peut parler de mariage. En fouillant un peu, vous savez, il faut gratter hein, dans des moments comme cela. Et je me suis aperçu que si on peut parler de mari, ou alors je recommence, on ne peut pas parler de mari s'il n'y a pas de mariage. Vous comprenez ? C'est la même racine. Je suis allé un peu loin. Oh, permettez-moi, hein, on ne va pas faire de grandes études. Hein. Mais mariage, ce maritus, oulala, en latin. Et alors, ça vient de Marie qui, on revient sur mâle. Et je me suis aperçu, alors là, c'est extraordinaire, c'est là où on voit que c'est vraiment voulu de Dieu. Je me suis aperçu que pour la première fois, quand on trouve le mot Marie, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 6. Alors, dans des mauvaises circonstances, parce que la femme, pardonnez-moi, les femmes, et la femme dit à Dieu, ben écoute, si j'ai mangé, c'est à cause de mon mari. Mari. Celui que tu m'as mis à côté de moi pour le mariage. Alors là, oui, ça y est, on peut parler de mariage. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est important quand on pense à tout ce qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, comme mariage. Non, j'ai jamais vu dans la parole de Dieu que Dieu accepte, pardonnez-moi, il faut aimer ces personnes, mais nous ne pouvons pas participer à ce qu'ils font. La Bible parle d'homosexualité. Dieu parle que deux de la même nature ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est contre nature, c'est contre la volonté de Dieu. Et c'est là où, déjà, il faudrait que tous ces hommes politiques travaillent sur le mot mariage. On ne peut pas utiliser ce mot. Je ne sais pas. Essayez de trouver un autre mot, mais on ne peut pas. On ne peut parler que s'il y a un mari et une femme, le mariage. N'oubliez pas que au travers de toute la parole de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Et alors c'est là où on voit dans les livres donc de Genèse, mais surtout dans Lévitique, dans Nombre, Dieu dit au peuple hébreu qu'on ne peut pas semer deux semences qui sont différentes les unes à côté des autres. Si vous avez fait un peu de jardinage, vous le savez, c'est pas possible de semer deux semences pareilles. Dieu parle qu'on ne peut pas avoir deux attelages à la fois, on ne peut pas avoir deux animaux de deux espèces différentes attelés ensemble. Non, c'est la catastrophe là, à un certain moment. Imaginez, n'est-ce pas, de mettre un âne à côté d'un bœuf, c'est pas possible. Je continue, c'est là où on voit, il faut que ça soit de la même nature. Il est parlé de deux étoffes. Une étoffe avec, je ne suis pas du tout couturier, oulala, loin de là, mais j'ai l'impression que je ne peux pas coudre de la soie avec du lin, avec de la laine, et avec toutes ces étoffes qui existent aujourd'hui, synthétiques, etc. C'est pas possible. Dieu parle aussi que tu ne peux pas être à... Alors là, on va un peu plus loin. Dieu dit, tu ne peux pas être dans deux temples à la fois. Le temple de Bélial et le temple de Dieu. Dieu parle que tu ne peux pas réunir ensemble les ténèbres et la lumière. C'est pas possible. À un certain moment, ça va craquer. Il y a un certain moment où c'est une obscurité totale, une confusion, un chaos total. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 1, dès le départ que Dieu a créé, il a d'abord, la première des choses, séparé quoi ? La lumière des ténèbres. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça y est. Et maintenant, il va pouvoir créer. Permettez-moi deux ou trois des exemples. Merci. Dieu dit, ben oui, ou Christ ou Bélial. Dieu dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Dieu parle, tu ne peux pas avoir deux communions à la fois. Une communion avec les Baals et les Astartés, et une communion avec Dieu. Et quand on lit 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 19, on sait que pendant longtemps, le peuple d'Israël avait fait cohabiter les Baals, les Astartés et bien d'autres idoles. Et ils allaient de temps en temps adorer Dieu, le temple de Dieu. Alors on comprend la colère de Dieu quand il convoque Élie, il lui dit, Élie, oui, tu iras vers le peuple et tu leur diras, c'est fini, hein, vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. Hein. C'est l'un ou l'autre. Alors, du point de vue, dans le schéma, donc dans le format voulu de Dieu, d'une famille, si on veut vraiment une famille qui correspond à la volonté de Dieu, immuable, inchangeable, alors il faut un homme et il faut une femme. Ça y est. Maintenant, on peut commencer de parler de mariage. On y va. Et alors, c'est là où, évidemment, ça y est, vous pouvez vous reproduire, vous pouvez être fécond. Et c'est là où on comprend le verset que tu as choisi de base, Jérémie, que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il le dit dans l'Ancien Testament, il le dit dans le Nouveau Testament, ou dans Matthieu chapitre 19. Il est parlé de cette union, de cette séparation. J'ai noté ici que pour qu'il y ait une union, il faut déjà une séparation pour un attachement à. Et donc, c'est l'importance aussi que l'homme, comme la femme, doivent se séparer donc de la famille, doivent maintenant, puisqu'ils sont sous le regard de Dieu, puisqu'ils veulent, dans la volonté de Dieu, donc fonder une famille, ils se séparent, ils se détachent pour s'attacher l'un à l'autre. Et maintenant, ça y est, la famille commence. Des enfants qui sont là. Amen. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau de voir cette fécondation qui va se faire. Le miracle de la naissance d'un enfant. Je pense quand il y a eu la naissance de mes deux filles, Rachel et Elisabeth, j'ai pu assister, comme peut-être certains d'entre vous, donc ça remonte à plus de 30 ans, et j'ai pu assister à cette apparition. Ah, oh là, je me rappelle du gynécologue qui m'avait dit, vous savez, monsieur Boila, pour moi, chaque naissance, c'est un miracle. Pourtant, c'était un chirurgien qui a envoyé, je vais dire, non, ça m'a exagéré, une cinquantaine de naissances dans la clinique où il a opéré les accouchements. Bref, monsieur Boila, chaque naissance, c'est un miracle. Oh là, quand vous voyez cet enfant qui est là, qui sort du ventre de la mère, et de voir que, le premier cri. Ah, oui, ça y est. Alors tu vas avoir d'autres cris dans ta vie, tu verras. Mais c'est beau. On veut l'entendre, ce premier cri. N'est-ce pas? On veut l'entendre. Et il est là. Ça y est. L'enfant est là. Je pense à ces versets de Jérémie. Quand Dieu parle à Jérémie. Et alors il lui dit, voilà, j'ai la référence là, Jérémie chapitre 1, verset 5, où il dit que à Jérémie, oh, tu sais, je te connaissais avant la naissance, je te connaissais dans le ventre de ta mère, ça y est, et cette formation. Quand je pense à Ecclésiaste chapitre 11, je ne sais pas si vous connaissez ce verset, il est tellement, je veux dire, de gynécologie et des naissances des enfants, je vais vous le lire parce que ça va vous faire penser à la naissance de vos enfants. Je l'ai retrouvé là dans Ecclésiaste au chapitre 11, où voilà ce qu'il est dit. Je vous lis le verset. Il dit ici, Genèse, Ecclésiaste chapitre 11, il dit, celui qui observe le vent, n'est-ce pas? Comme tu ne sais pas, je suis au verset 5, comme tu ne sais pas quelle est la chose, comme tu ne connais pas la direction du vent, tu ne connais pas non plus de quelle manière, il est dit, dans le ventre de la femme, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui est en lui. Tu ne sais pas de quelle manière est formé tous ses os. Est-ce que vous avez oublié le psaume 139? Il faut le relire. De voir cette omniscience de Dieu, cette omniprésence, cette omnipuissance de Dieu au travers de tout le psaume. Et c'est là où on voit, oh merci, de la belle nature, de la créature que je suis devant toi. Ça y est, les enfants sont là. Hommes, femmes, oui, il ne peut pas y avoir, d'autres moyens pour, même s'il y a, je le sais, des moyens aujourd'hui qu'on a trouvés. Mais je crois que le plus beau, c'est de voir ça. De voir cette fécondité dont Dieu a pourvu pour l'homme et la femme. Ça y est, l'enfant est là. Hein? Alors c'est là où on peut utiliser un autre mot, le mot parent, le mot famille. Et je ne vais pas continuer à développer tout ce détail que tu nous as donné, Tim. Mais n'oubliez pas que le père et la mère maintenant, oui, ont la responsabilité de demander à l'enfant, de savoir respecter, Proverbe 28, 24, de savoir écouter, dans le Proverbe 1, verset 8, de savoir obéir, d'apprendre à obéir, Éphésiens 6, 1, Colossiens chapitre 3, verset 20, et ainsi de suite. Ça y est, la famille maintenant est là. Ça y est, maintenant peut se déclencher la responsabilité du père et du mère. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose d'important pour Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup veulent devenir père, mais devenir mère. Mais ils oublient deux autres étapes que Dieu veut. Soit d'abord un homme, soit après un mari, et après tu deviendras un père. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est à nous de savoir aller vers tous ces jeunes et de leur dire, écoute, mon cher, tu veux devenir père? Deviens d'abord un homme, tel que Dieu le veut. Et après, deviens un mari, mariage. Et après, tu seras un père. Et nous pouvons donner la même leçon, parce qu'elle est biblique, nous pouvons donner la même leçon à la jeune fille. Tu es une jeune fille? Tu veux devenir une femme? Oui. Alors marie-toi. Et après, tu deviendras une mère. Et c'est pour cela que c'est la catastrophe aujourd'hui. Parce que dans les familles, on a commencé à voir un père. Et où est la mère? Et où c'est qu'on va s'établir? Où est la famille? Où est le mariage? Est-ce que vous vous rendez compte de la confusion qu'il y a? Pourquoi cette confusion? Je vais vous lire un passage tout à l'heure. Bon, la famille est là. Alors ça y est, je vais enseigner, comme je vous le disais, hein, et sous la direction de Dieu. Si vraiment on veut une famille telle que Dieu la veut, alors laissons Dieu nous diriger pour enseigner l'enfant, le petit enfant qui est là. Sachons apprendre à l'enfant à obéir, à respecter les parents, mais à respecter aussi les autres, à savoir écouter, à savoir obéir, à savoir mettre en pratique tout ce que Dieu dit, à savoir, oui, comme tu le disais exactement, Tim, dans Hébreux chapitre 12, corriger l'enfant. Et corriger, voilà quelque chose qui a été complètement changé, tordu. Parce que la correction, c'est pas s'abattre, l'écraser l'enfant. Mais correction, quand on le voit dans l'étymologie, c'est savoir redresser et conduire. Pardonnez-moi de parler de Toulouse. Je ne peux pas. Je suis né à Toulouse, il faut que je parle de Toulouse. Vous savez que Toulouse, bon, est la capitale de l'aéronautique. Et évidemment, partout, on fait des avions, des sous-traitants, Airbus, etc. Mais on sait faire autre chose, et aussi le cassoulet. Et bien d'autres choses. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai entendu un jour un grand ingénieur de Airbus qui parlait à Toulouse il y a des années, et qui parlait que parfois, dans ces avions tellement, tellement perfectionnés, ils sont obligés de corriger la trajectoire. Corriger la trajectoire, alors bien sûr, taper, quoi. Qu'est-ce que c'est corriger ? Ben, c'est tout simplement redresser. Parce que l'avion, oui, ça peut arriver. Il peut s'égarer de quelques centimètres et ça peut devenir catastrophique au travers des kilomètres et kilomètres. Et on corrige. Ça veut dire qu'on redresse la trajectoire. Et c'est ça qu'on a oublié, mes frères et sœurs, dans nos familles. De savoir redresser avec douceur, avec amour, mais avec autorité. L'autorité qui vient de Dieu pour conduire l'enfant sur la voie droite. Je vous cite trois exemples dans la Bible. Et vous allez dire, oui, j'ai été comme ça. Ou peut-être vous allez dire, non, je n'ai pas été comme ça. Combien j'aime la vie de famille de la famille Josué. Vous l'avez lu ? Oh, que c'est beau ! Et la conclusion pour ce Josué qui avait compris sa responsabilité de chef de famille, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24. Rappelez-vous de cela. Sans doute que ce verset est chez vous. C'est rare quand dans une famille chrétienne, pas dans une pièce, nous on l'a dans la salle à manger, il n'y a pas de verset. Moi et ma maison, oui mais... Oh là là, hein ? Où est l'application totale ? Mais c'est ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais je pense à un roi bien connu, David. Et j'ai été étonné quand, au travers de tout son travail, son ministère, il a eu, la Bible dit dans 1 Roi, au chapitre 4 et au verset, au chapitre 1, pardon, et au verset 4, il a eu un enfant qui s'appelait Odo-Abdo-Nija, et il est dit qu'il ne lui avait jamais fait une seule remarque. Alors là, vraiment, quelle sainteté pour cet enfant. Vous m'avez compris, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là où on voit que David était un homme de la même nature que nous. Bien sûr qu'il fallait sans doute corriger cet enfant. C'est pas possible de dire jamais je fais un reproche à un enfant. Des fois on l'a entendu, hein. C'est pas mon cas non plus. Et si on veut être honnête, non. Et alors, quoi ? Ben, il y a aussi la pire des situations. La pire des situations, c'est qu'un des signes des derniers temps, dans 1 Timothée au chapitre, dans 2 Timothée au chapitre 2, il est bien dit que la caractéristique, 2 Timothée, pardon, chapitre 3, il est dit qu'une des caractéristiques des gens dans leur comportement à la fin des temps, il est dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes ne seront égoïstes. Il est dit, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, etc., etc. Qui vraiment dirige nos maisons ? Qui domine aujourd'hui dans beaucoup de maisons ? Tu le disais. Des enfants. La révolte, c'est biblique. Oh là là, qu'on s'est éloigné, mais qu'on s'est éloigné petit à petit de ce que Dieu veut, du format établi par Dieu d'une famille. Pardonnez-moi d'insister, un homme, une femme, un mariage, et puis une famille, des enfants. Amen. Pensons-y à cela. Et c'est là où, ça y est, nous arrivons à la fin. Ça y est, maintenant, je suis dans la marche dans cette famille. La famille avance, non pas de changement. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, quand il écrit à cette église de Rome, du 1er siècle, pas de la Rome d'aujourd'hui, vous l'avez compris, et alors en écrivant à cette église de Rome, nous sommes dans les années 55, par là, alors, entre autres, voilà ce qu'il leur dit. Et déjà, vous savez combien l'Empire romain était renommé pour l'immoralité, l'impudicité, toutes sortes de loisirs, de jouissances qui étaient là. Et l'apôtre Paul est obligé de dire, et vous allez me dire si ça ne correspond pas à la situation de la France, pour pas dire de tous les pays. Il est dit dans Romains chapitre 1, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez, pardonnez-moi, je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Je m'appuie sur uniquement d'abord la parole de Dieu. Mais quand j'entends certains hommes politiques qui défendent à 100% leur politique, et quand on voit, n'est-ce pas, qu'ils disent « c'est ça la vérité ». Si vous voulez un changement, c'est moi, hein, le changement, hein, c'est pas l'autre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Pourquoi? Et c'est là où il est parlé un peu plus loin, n'est-ce pas, qu'il y a eu des changements. Il y a trois fois, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, utilise à trois fois le mot changement. Pourquoi ils sont devenus fous? Parce qu'il est dit au verset 25, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, donc en image. Encore, au verset 25, il est dit, eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et puis un peu plus tard, et ça y est, on y arrive, ça nous concerne. Ils ont changé l'usage de l'homme, l'usage de la femme. Homme avec homme, femme avec femme. L'immoralité, l'impudicité totale. Ça y est. Voilà des hommes et des femmes qui se sont écartés petit à petit du commandement et de la voix de Dieu. Et c'est là où nous en arrivons donc à cette situation que nous avons devant nos yeux. Cette situation où, oui, Dieu n'est plus là. Mais je crois qu'il faut penser à quelque chose, et je vous le disais tout à fait au début, mais je vais terminer là-dessus, c'est que Dieu dit à plusieurs fois, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors nous assistons à quoi? Nous assistons à ce que je pourrais faire à l'instant, mais je ne vais pas le faire, hein. Ben, c'est de balancer quelque chose qui existe, qui est là, et sa place, c'est là. Je la renverse et je la mets par terre. Mais ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Il suffit que quelqu'un ait le courage de ramasser, de le remettre à sa place, et ça y est. Et pour ce qui est des fondements de Dieu, des doctrines établies par Dieu, en ce qui concerne cet après-midi donc la femme, l'homme, la famille, le mariage, c'est ce qui se passe de plus en plus. On a renversé ces fondements établis par Dieu. Mais ça ne change rien. Hein. Il suffit qu'on ait le courage, nous frères et sœurs, de quoi? De nous baisser et de ramasser de nouveau ce qui a été mis par terre et de le remettre en vue. De remettre la parole de Dieu en vue.
Amen.
Oh là là, je pense à, et je suppose que dans chaque de une de vos églises, vous avez un groupe d'évangélisation, et je pense à ce petit groupe d'évangélisation que nous avons dans notre église, et tous les samedis, peu importe, vent, pluie, soleil, ils sortent le samedi après-midi, avec des traités, avec des évangiles de Luc, de Jean, et peu importe, en avant. Il distribue, il parle, il témoigne pour tout ce qui a été renversé. On le remette d'aplomb. C'est à nous à le faire. Je pense à quelque chose qui est arrivé du temps du prophète Samuel. La Bible dit que c'était pas la première fois que le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins. Et la Bible dit que les Philistins, parce qu'il y avait cette désobéissance du peuple hébreu de plus en plus, alors Dieu a permis une catastrophe pour eux. Il leur a permis que les Philistins aillent à Silo, prennent dans l'arche de l'Alliance et l'amènent chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La Bible dit qu'ils ont mis leur arche de l'Alliance à côté de leur dieu, Dagon. Bien. Ça, c'était dans l'après-midi, je le suppose. La soirée arrive, la nuit est là, et tout d'un coup, pendant la nuit, la statue de Dagon est renversée par terre. Ça arrive plusieurs fois. Oh, ils ont compris. Ils ont compris que la présence de Dieu était là. Et que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était là. Et qu'il ne fallait pas y toucher. Et vous savez de quelle manière ils vont faire fuir, n'est-ce pas, l'arche sur autant que je m'oussine sur un char avec des bœufs. Et puis, ça y est. Voulant dire que peu importe ce qui se passe, moi je suis sûr que si on avait le courage de remettre à la place la parole de Dieu, à la place les fondements, les doctrines voulues de Dieu concernant la famille, je suis sûr que si vraiment on le remettait à sa place, si on avait le courage tous ensemble, alors c'est les autres qui tomberaient par terre. Amen.
Amen.
Amen. Oui, soyons des hommes et des femmes remplis de la lumière de Dieu. Ayons ce courage d'aller jusqu'au bout. Je termine en disant, comme je ne vous connais pas, s'il y a ici peut-être des jeunes filles, des jeunes hommes, qui disent oui, le Seigneur m'a montré avec qui je dois me marier. Amen. Va jusqu'au bout du mariage. N'aie pas honte dans ce monde de ténèbres. Nous sommes en préparation pour le mois d'août dans notre église de mariage. Et la jeune fille a des attaques terribles au sein de leur famille. On prie, on la soutient, on l'entoure, n'est-ce pas? Jeune femme, jeune fille, jeune homme, allez jusqu'au bout. Et puis comme je ne vous connais pas, pardonnez-moi, je parle parce que Dieu me le dit. Pour vous, père, mère, si vous dites oui, comme notre frère Tim nous l'a dit tout à l'heure, si vous voyez qu'à un certain moment, à un certain point, c'est pas ça, que nous sachions avoir le courage de dire pardon, Seigneur. Pardon à nos enfants, pardon peut-être à notre épouse, je ne sais pas. Mais de dire, Seigneur, je veux revenir dans le format que tu as établi une fois pour toutes. Je termine en disant, si on avait lu des versets dans Matthieu, dans Luc, ne vous inquiétez pas pour la vie éternelle. La Bible dit qu'il n'y aura plus d'hommes et de femmes. Nous serons tous semblables les uns aux autres. Fini le mariage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 que nous qui sommes fiancés, nous sommes l'épouse, ça y est, du Seigneur. Nous sommes mariés, nous serons mariés pour l'éternité. Amen pour le Seigneur.
Amen.
Est-ce que chacun de nous est invité aux noces? Oui.
Amen.
Mais est-ce que vous avez réservé votre invitation? Est-ce que chacun de nous sera dans ces noces de l'agneau? Je vous demande de vous recueillir. Merci. Peut-être que vous n'avez pas pu noter toutes les références bibliques. Sentez-vous libre de me le demander. Pardon peut-être si parfois j'ai escamoté certains mots. Mais je voulais avant tout que ce soit la parole de Dieu. La parole de Dieu qui soit là, forte, puissante. Laissons-nous travailler par cette parole éternelle venant de Dieu. Est-ce que nous prenons tous la décision? Oui, je veux cette famille telle que tu la veux. Oui, je veux être un homme. L'autre dira, ben moi, je veux vraiment être cette femme, puisque tu m'as donné. Tu m'as donné donc, ben oui, ce don d'être une femme. Est-ce que chacun de nous a le courage de venir et de dire oui, Seigneur, dans cette épaisse obscurité qu'il y a, je veux être un enfant de la lumière. Je veux que tu m'utilises d'une manière ou d'une autre pour que je puisse refléter en tout cette vérité à moi. Oh Seigneur, nous te prions pour aussi nos autorités. Quelle confusion, Seigneur, en ce moment. Oh Seigneur. Seigneur, nous te demandons pour notre président. Nous te demandons pour nos ministres, pour nos députés, pour nos maires. Seigneur, pardon parce que moi le premier, je ne l'ai pas assez à cœur. Je n'ai pas assez le fardeau de prier, Seigneur, pour nos dirigeants. Mais Seigneur, tu vois à quel point la France, l'Europe et tout le monde entier, à quel point nous en sommes arrivés. C'est horrible, Seigneur. Je sais que d'un côté, je ne sais pas, parce que je sais que tout doit s'accomplir et tu nous l'as dit, tu nous l'as annoncé, c'est inévitable. Toutes tes prophéties s'accomplissent un jour ou l'autre et nous le voyons de plus en plus s'accomplir. Mais Seigneur, tu nous demandes malgré et contre tout d'être des hommes de la vérité, Seigneur. Alors, Seigneur, utilise-nous comme tu voudras. Amen. Oh, Seigneur, travaille nos cœurs. Continue à intervenir pour la suite, Seigneur, de cette rencontre. Prépare notre frère Jérémie dans tout ce qu'il aura à dire. Seigneur, que tu puisses nous bénir dans les échanges, les partages que nous aurons. Père, je te présente cette prière par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Merci beaucoup, frère, pour cette exhortation, cet encouragement pour nous chrétiens à nous rappeler de fondement, de la fondation, du format que Dieu a donné pour le couple, pour la famille, et que nous sachions bâtir nos vies sur ces principes. C'est facile d'aller critiquer ailleurs ce qui se fait, mais je crois que l'essentiel pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est de commencer par nous-mêmes. Alors, dans quelques instants, nous aurons un repas ici, qui est pourvu par l'Institut. Vous êtes tous cordialement invités à rester. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste demander aux gens de bien vouloir sortir de cette pièce pour qu'on puisse installer les tables, les chaises. Peut-être demander à quelques hommes d'aider à remonter des tables. Si c'est possible de mettre les chaises, les empiler sur les côtés, ce sera plus simple pour amener les tables et installer toutes les choses. Et ensuite, on fera encore quelques annonces pour le déroulement du repas. Je vais peut-être aussi demander au pasteur Abed s'il veut bien passer. On va avoir quelques offrandes pour aider nos frères qui se sont déplacés là pour venir apporter la parole de Dieu ici. Et ensuite, on pourra mettre les choses ici en place. Tu veux prier ?
On va prier pour le repas en même temps. On fera le temps. On va quand même prendre le temps de prier que le Seigneur puisse venir les offrandes. Qu'on comprenne bien. Les personnes qu'on demande de venir sont toujours volontaires. Ils ne disent jamais non. Mais ils ne demandent jamais rien en retour non plus. Alors, si vous avez été déjà béni, encouragé, exhorté par ce que vous avez entendu, vous pouvez dire également merci de manière concrète. Que Dieu vous bénisse. Ça ne va pas payer moi pour remplir l'essence dans la voiture. Mais que le Seigneur puisse voir et bénir ce que chacun fait ici. Prions aussi. Seigneur, nous te remercions et nous te louons du fait que nous sommes bénis. Juste le fait d'être ici, Seigneur, entre frères et sœurs en Christ, d'avoir cette liberté de parler de choses si importantes et de dire voilà ce que tu en penses. Et de pouvoir le faire et repartir d'ici en sachant exactement, Seigneur, quelle est ta volonté dans les domaines de la famille, dans notre rôle, chacun d'entre nous, Seigneur. Et ne pas repartir ignorant, mais encouragé et instruit. Et je prie, Seigneur, que nous puissions te montrer cette reconnaissance pour cet amour que tu as pour nous, d'une manière concrète, et que tu puisses bénir les offrandes qui sont apportées. Pour que nous-mêmes, nous puissions être une bénédiction en retour pour ces hommes de Dieu qui sont venus pour apporter ta parole. Que tu puisses les bénir, Seigneur, et chacun dans leur ministère, tu puisses les aider à ce qu'ils puissent porter du fruit, Seigneur, en ton honneur et en ta gloire. Et que tout ce qu'il fait, Seigneur, ce matin et encore cet après-midi, puisse t'honorer en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Nous tenons à vous remercier pour votre participation, pour aider nos frères, et vous remercier d'être venu. C'est un thème important et votre présence le prouve. Et nous réjouissons de ce que vous soyez venu et que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et on aura le temps, pendant le repas, d'avoir une bonne communion fraternelle, d'apprendre à se connaître les uns les autres. On a plusieurs églises ici qui sont représentées. Et je voudrais juste prendre quelques minutes, peut-être que les responsables d'église pourraient se présenter, ou si vous êtes venu seul de votre église, vous pouvez vous présenter votre église. Et puis je pense qu'on peut commencer par les plus évidentes, pasteur Doucette. Et peut-être ceux qui viennent de Vernon peuvent se lever, comme ça les gens peuvent un peu voir ceux qui sont de l'église de Vernon.
Là, Jérémy vient de le dire, mais c'est l'église de Vernon. Je suis le pasteur par la grâce de Dieu. Et donc voilà, ces différentes personnes qui se sont déplacées de très très loin. voilà, pour assister aujourd'hui.
Merci beaucoup. Pouvez-vous asseoir. Ensuite, il y a encore plus près, hein. Mais leur pasteur n'est peut-être pas là-haut. Il est souffrant aujourd'hui. Donc on va demander aux deux dames de Mantes de bien vouloir se lever. On a Esther et Alexandra qui nous viennent de l'église baptiste de Mantes. Ensuite, Frère Hansen.
Dans la maison de la fille.
Voilà, donc plusieurs de l'église de Maison Lafitte. On en a plusieurs de l'église de Rouen également, n'est-ce pas? Ils peuvent se lever pour qu'on voit les frères et sœurs de l'église de Rouen.
Je profite pour vous transmettre les salutations de l'église de Rouen.
Merci beaucoup.
Ils pensaient bien à vous et ils sont très contents de vous dire qu'ils pensent à vous et qu'ils prient pour vous.
Merci beaucoup, c'est réciproque. Ensuite, quelles sont les autres assemblées, églises représentées? S'il n'y a pas de responsable, on prend les plus âgés.
L'église de Poissy, donc.
L'église de Poissy. C'est
voilà. La famille Castrac ici.
D'accord.
Et puis, la famille Grélin représentée minoritairement.
D'accord.
Très Poissy. Bien.
De l'église de Poissy, ok. Je crois qu'on a fait le tour.
Thionville.
Amiens. Thionville. On a quelques-uns de l'église de Thionville, dans l'est de la France. Et Ussel.
Oui, l'église protestante évangélique d'Ussel, qui vous salue bien aussi.
Très bien. Ok, je crois qu'on a fait le tour et on aura l'occasion de faire connaissance pendant le repas. Donc, je vous invite donc à sortir, qu'on puisse mettre les chaises sur les côtés, ensuite quelques-uns pour monter les tables. Merci beaucoup.